RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Notre invité aujourd'hui, Alain Frachon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chroniqueur international au quotidien Le Monde. Vous avez dirigé son service étranger de 1995 à 2000. Vous avez été correspondant de nombreux points du globe, notamment à Jérusalem, à Washington, à Téhéran, à Londres. Et vous avez même assuré la direction éditoriale du Monde à deux reprises. Vous publiez aujourd'hui un recueil de vos chroniques internationales, publié dans le quotidien du soir de 2014 à 2022. Ce recueil a un titre tout à fait parlant, qui sera le fil rouge de notre conversation. Un autre monde, l'ère des dictateurs, c'est publié chez Perrin. Vous écrivez en ouverture, Alain Frachon, l'éternel retour de l'histoire et la force des passions en politique forment, sans que je l'ai voulu ainsi, le tronc commun de mes chroniques. De fait, cet éternel retour de l'histoire, on le sent en vous lisant à travers une sorte, je dirais, peut-être de tristesse prémonitoire. Tant de choses sont inscrites dans l'histoire. Nous allons donc tenter avec vous de repérer les lignes de force de notre histoire commune durant ces dernières années. Le titre de votre livre, Un autre monde, l'ère des dictateurs chez Perrin.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Alors Alain Frachon, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales. Vous vous situez très précisément au début de ce livre intitulé « Un autre monde, l'ère des dictateurs chez Perrin ». Vous écrivez « Je suis un fanatique du compromis social-démocrate ou libéral-démocrate. Je crois dans l'avenir du projet européen et dans l'universalité des droits de l'homme ». C'était important de préciser ça en ouverture de ce livre, Alain Frachon.
Je crois que c'est une manière d'honnêteté, si vous voulez. On n'est jamais un observateur comme ça, impavide, qui aurait une sorte de capacité à sortir de lui-même et de ce qu'il est, et du pays qu'il a façonné, du milieu social et familial qu'il a façonné, pour raconter le temps qui passe. Je n'y crois pas. Je crois que c'est plus honnête de dire que j'ai regardé tous ces pays et je regarde cette actualité qui défile, avec ce bagage-là qui est le mien.
Alors, nous allons passer en revue avec vous les grands dossiers. Nous allons parler de la Russie, nous allons parler des États-Unis. Mais d'abord, je voudrais commencer avec vous, Alain Frachon, en évoquant la Chine. Vous écrivez que vous êtes pris, en quelque sorte, d'une nouvelle passion pour la Chine. Cet intrus, je vous cite, qui cassait la vaisselle du train-train des aventures occidentales et moyen-orientales. Ça vous a pris quand, cette passion pour la Chine, Alain Frachon ?
Je suis journaliste depuis 1974, mais mon premier poste à l'étranger pour l'agence France Presse a été Téhéran. Donc j'appartiens à une génération de journalistes qui a suivi la politique étrangère à partir de la révolution iranienne. Ce qui fait que nous avons été attirés ou motivés par une sorte de tropisme moyen-oriental.
Voilà. C'était le cœur des passions du monde.
C'était le cœur des passions du monde. On parlait de la centralité du Moyen-Orient à l'époque. C'est une époque où le pétrole, ça comptait encore beaucoup. Le pétrole, le gaz naturel. C'est une époque où l'on pensait
ça compte encore toujours beaucoup.
Ça compte encore toujours beaucoup.
On y viendra tout à l'heure.
Absolument, oui. Les prix montent. Ouais. Oui, absolument. Et donc voilà. Et c'est une époque où l'on pensait que même qu'une guerre, un conflit mondial, pouvait naître éventuellement pendant la guerre froide, en tout cas, dans cette région du Moyen-Orient. Voilà. Et puis, quand je suis revenu bien des années après, et après beaucoup d'aventures moyen-orientales, quand je suis revenu à Paris, j'étais chef du service étranger du Monde, je pense dans les années, à la fin des années 90, par là, et je voyais sans arrêt monter, émerger cette actualité chinoise que je n'avais pas vue, qui était comme occultée.
Venue de nulle part, presque.
Absolument.
On avait oublié la Chine.
On avait oublié la Chine. Mm-hmm. Et parce qu'on n'imaginait pas qu'en 50 ans pouvait émerger une superpuissance. Voilà. Or, c'est ce qui s'est passé. Et il y a un élément de surprise. Et j'ai voulu parler de cet élément de surprise. Comment la Chine est arrivée sur ma table, sur mon bureau de travail, au milieu des années 90.
Et cette Chine n'est pas n'importe quelle Chine. Vous décrivez une sorte de dictature 2.0. Nous avons cru, vous avez cru, Alain Frachon aussi, que le progrès économique allait de pair avec une forme de progrès politique, de démocratisation politique, de libéralisation politique. Or, nous avons tous constaté, vous avez constaté en observant la Chine, que ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait plus, Alain Frachon.
Moi, j'ai beaucoup lu Raymond Aron.
Oui.
En lisant les libéraux comme ça, mais on aurait pu remonter jusqu'au 19e ou au 18e siècle.
À Tocqueville, par exemple.
Par exemple, on aurait pu comme ça mettre sur la table une sorte de martingale. Mais regardez ce qui marche. Ce qui marche, c'est la liberté politique et la richesse matérielle. Et la paix.
Qui vont ensemble.
Comme une sorte de trio, comme ça, de martingale gagnante. Et puis est arrivé un autre modèle. Il n'y a pas eu de contre-modèle soviétique, parce que personne ne voulait vivre la misère économique et sociale du soviétisme. Il n'y a pas eu de contre-modèle. Il n'y a pas eu de contre-modèle yougoslave, comme il y avait quand j'étais jeune.
Certains ont pu y croire.
Certains ont pu y croire.
Passagèrement.
Je me souviens, dans ces années, à la fin des années 70, même encore, avoir été écouté Michel Rocard, ou les gens d'un petit parti de gauche qui s'appelait le Parti Socialiste Unifié, qui prônait une manière de solution à la Yougoslave. Bon, il n'y a pas eu... Ces rêves-là ont crevé très vite. Ils ont crevé du fait qu'ils n'ont accouché que de misère politique, économique et sociale. Et donc... Et là, tout d'un coup, arrive un contre-modèle. C'est-à-dire une société de consommation très dynamique, une société de services et industriels extrêmement dynamique.
L'émergence d'une classe moyenne, très nombreuse.
L'émergence d'une classe moyenne, et qui plus est, l'émergence d'une classe moyenne urbaine.
Voilà.
Avec 15, 20, 30 villes de plus de 10 millions d'habitants.
Et on s'est dit, ils vont faire comme nous.
Et on s'est dit, si on regarde l'histoire, si on peut établir l'histoire comme une chaîne de précédents, eh bien, il y aura forcément une manière de libéralisation politique. Pas forcément la fin du Parti communiste chinois, mais il y aura une manière de libéralisation politique. Et ça n'a pas eu lieu, c'est même tout le contraire qui a eu lieu, puisque depuis 2012-2013, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et donc, il y a eu l'émergence d'un contre-modèle en 50 ans. On s'y attendait pas. Ça veut dire que la martingale libérale, eh bien, elle n'est pas universelle, qu'elle dépend de conditions historiques, idéologiques particulières. Et maintenant, nous avons une scène internationale qui est marquée par ce contre-modèle, marquée quotidiennement. On le retrouve dans l'actualité, par exemple, sur la guerre d'agression que la Russie a menée en Ukraine. Ce n'est pas un hasard si la Chine de Xi Jinping a pris le parti de la Russie et si toute la machine de propagande chinoise aujourd'hui reprend les arguments du président Poutine dans cette affaire.
Et alors, vous pointez deux caractéristiques de cette primature chinoise. Vous écrivez, Alain Frachon, Pékin est le créancier du monde. Pékin détient 1000 milliards de dollars de la dette américaine. On a tendance à l'oublier, ça.
Oui, alors, ça ne veut pas dire que la Chine est en bonne position. Parce que, Frédéric, si je vous prête 5000 euros... Vous doutez bien que je finirai par vous rembourser. Mais en revanche, si vous me devez 5 millions d'euros, je peux vous dire, compte tenu de l'âge que j'ai, je vous rembourserai jamais.
C'est
donc,
du
il
ne
faut
ordre.
Pas oublier ça, si vous voulez. On a toujours le sentiment d'une domination financière de la Chine parce que la Banque centrale chinoise, qui doit posséder 3000 milliards de dollars de réserves, dont au moins 1000 milliards en bons du Trésor américain, notamment, elle n'a pas tellement d'autres endroits pour les placer. Elle peut acheter du yen, elle peut acheter de l'euro, mais enfin, les marchés les plus profonds, les plus sûrs, c'est encore le dollar. Ça donne aussi la force du dollar.
Encore.
Ça donne encore la force du dollar. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que, on peut dire que l'État fédéral américain fonctionne avec une carte de crédit chinoise, en partie.
Alors, sur le fond, peut-être encore plus grave, vous soulignez ce point de vue essentiel de la Chine qui veut que l'autocratie, je vous cite Alain Frachon, la Chine veut que l'autocratie bénéficie de la même légitimité que la démocratie. Là est un enjeu fondamental.
Fondamental, dont on ne parle pas.
Voilà.
Ou dont on ne parle pas assez. Les journaux qui suivent l'actualité à Genève, de l'ONU à Genève, la Commission des droits de l'homme, ou bien les organisations spécialisées du système de l'ONU, ces journaux-là sont très rares, quasi exceptionnels, mais si vous couvrez ce type d'institution, alors vous comprenez qu'une bataille idéologique très forte est en cours.
À l'échelle du monde.
À l'échelle du monde, absolument. Dans toutes les organisations internationales et dans les relations entre États, dans les relations bilatérales que peut avoir la Chine. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine considère que les institutions qui ont émergé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui portaient la marque du libéralisme à l'occidental, même si les occidentaux ont été particulièrement infidèles à leurs propres valeurs, mais peu importe, il y avait une marque occidentale. C'est la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, c'est la Charte de l'ONU, ce sont les conventions de Genève, c'est l'habeas corpus, c'est cet ensemble liberté publique, droits de l'homme qu'on qualifie de...
D'universel, qui est supposé universel.
Voilà. Et la Chine nous renvoie un non catégorique. Non, nous n'en voulons plus. Les droits de l'homme doivent disparaître des relations entre États. Nous avons une conception de la souveraineté nationale qui fait que vous ne pouvez pas vous mêler de ce qui se passe chez nous. Ce n'est pas comme ça qu'on fera la paix. Au contraire, en vous mêlant de ce qui se passe chez nous, vous faites de la subversion. Parce qu'il y a la peur d'une idée. L'idée occidentale fait peur. Autant à Poutine qu'à Xi Jinping.
Voilà.
Ils sont aussi dans l'autoprotection.
Poutine est sur la même ligne. Oui.
Ils sont sur la même ligne. Ils gagnent en ce moment. C'est-à-dire qu'ils gagnent un nombre de pays sympathisants de plus en plus importants au sein du monde. Et on l'a bien vu lors des votes aux Nations Unies, d'ailleurs, qui ont suivi.
Ils ne sont pas tout seuls. Sur cette ligne-là, il y a évidemment la Chine, la Russie, il y a aussi la Turquie. Il y a aussi, d'une certaine façon, le Brésil. Il y a bien d'autres pays
qui, dans le monde arabe aussi, qui parfois d'ailleurs dépendent à 100% pour leur sécurité des États-Unis. Ça les gêne pas.
Oui.
Mais vous avez des pays, par exemple, comme la Thaïlande, qui est un vieil allié des États-Unis dans le sud-est asiatique, qui tous les ans fait toujours d'ailleurs des manœuvres avec l'armée américaine, dont la sécurité dépend aussi largement des États-Unis, qui a été leur base arrière pendant la guerre du Vietnam. Mais prenez la Thaïlande d'aujourd'hui. Oui. Elle refuse de prendre position dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Elle refuse de voter des sanctions. Elle fait parallèlement, quelques mois plus tard, des manœuvres avec l'armée chinoise, puis avec l'armée russe ou avec la marine russe. Et donc il y a la montée de ce que nous avons connu, nous, quand nous étions plus jeunes, d'une sorte de non-alignement ou de neutralité.
Oui, sauf que ça n'a pas la même signification.
Voilà. Sauf que...
Parce que c'est pas neutre, justement.
C'est pas neutre.
Considérer que les droits de l'homme ne sont pas universels, par exemple.
Non, c'est pas neutre. Mais cette bataille-là, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas couverte.
Oui.
Nous ne comprenons pas ce que la Chine est en train de faire. Il y a une excellente jeune sinologue française qui est très forte sur ce sujet, qui s'appelle Anis Ekman, et qui raconte ça très très bien. Nous ne comprenons pas la bataille diplomatique que mènent les Chinois et les Russes afin de l'emporter dans ce combat idéologique, politico-idéologique. Nous avons oublié ce que c'est que l'idéologie.
C'est ça.
Nous croyons que ça n'existe plus.
Il s'agit là d'un combat idéologique à l'échelle mondiale.
Absolument. Hein. Pour désuniversaliser notre conception des droits de l'homme.
Voilà. Et ça, c'est un enjeu fondamental qui est trop peu traité. Dites-vous à la Franchon. Je voudrais rappeler que dès le 20 février 2015, vous écriviez à propos de Vladimir Poutine, il ne redoute pas tant les chars de l'OTAN que les valeurs de l'Union européenne, c'est-à-dire l'état de droit. Là est le véritable enjeu, Alain Frachon.
Bien sûr, d'ailleurs, il ne s'en cache pas, il l'a redit l'autre jour. Il a totalement démonisé le monde occidental, diabolisé le monde occidental. Il l'a redit l'autre jour. Leurs idées sont subversives, leurs idées sont hostiles, contraires à nos valeurs. Entre parenthèses, lui prétend qu'il représente la vraie universalité des valeurs et des droits de l'homme. Mais donc, il nous présente, si vous voulez, comme étant... Alors, ce que nous avons pu être par moments, notamment au lendemain de la chute du mur, mais comme étant de façon militante, constamment en train d'essayer de subvertir son propre pouvoir. Je ne dis pas son pays, mais je dis son pouvoir, ou son régime.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en conversation avec le journaliste Alain Frachon, journaliste du Monde, grand spécialiste des questions internationales, qui publie aux éditions Perrin un recueil de ses chroniques internationales dans le monde, intitulé « Un autre monde, l'ère des dictateurs ». Et nous avons débuté avec lui cette conversation pour précaler un peu, pour dessiner les grandes lignes de ce monde qui se dessine. Et nous a rejoint dans le studio Jean-Christophe Ploquin, que je salue. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Christophe Ploquin est rédacteur en chef à la Croix. Il a dirigé le service international de la Croix pendant longtemps et il préside en ce moment l'association de la presse diplomatique. Alors, je voudrais reprendre à la Frachon une phrase de constat que vous écrivez dans votre livre. Nous sommes au début de l'effondrement du système international qui dominait, écrivez-vous, depuis la Renaissance italienne.
C'est pas moi qui dis ça, je crois. C'est une citation.
Oui.
C'est intéressant.
De Pierre Asner, peut-être.
Parce que
oui.
Non, je pense que c'est une situation d'un politologue chinois, mais qui vit en Occident.
Et donc, mais vous épousez cette conception?
Je ne sais pas. J'espère que non.
Oui.
J'espère que c'est pas la fin.
Ouais.
Non, j'espère que non. Je pense que cette bataille n'est pas perdue. L'Occident a très mal mené ces batailles. Nous sommes très largement coupables de la décrédibilisation à laquelle nous assistons de nos valeurs. Nous sommes la plupart du temps, c'est nous qui avons démoli notre propre système.
Parce qu'on a été trop naïf, trop innocent.
Infidèle à nos valeurs. Des guerres d'agression menées par l'Occident, comme celle que Poutine mène en Ukraine, malheureusement, il y en a eu.
Oui,
nous l'avons fait aussi. C'est d'ailleurs ce que nous disent tous ces gens qui émergent dans ce
mouvement.
Ils ont gardé ça, mais vous l'avez fait aussi.
Oui.
Deux poids, deux mesures. Attention, vous l'avez fait aussi. Et donc, on paye ça. On paye nos guerres lointaines. On paye notre infidélité aussi à un certain nombre de nos valeurs. Et on paye aussi la manière extrêmement militante, voire arrogante, avec laquelle nous nous sommes comportés dans les années qui ont suivi la chute du mur, présentant notre système comme ayant gagné. Ce qui est faux, ce n'est pas nous qui avons gagné, c'est eux qui se sont eux-mêmes suicidés. L'échec est venu de l'intérieur de l'Union soviétique. C'est pas la pression militaro-culturelle des États-Unis. Ça a compté. Mais c'est pas Washington qui a gagné. C'est Moscou qui a perdu toute seule dans son coin. C'est l'Union soviétique qui s'est perdue. Or, nous avons interprété la chute du mur comme si nous avions gagné. Comme s'il était évident pour tout le monde que notre système était le meilleur.
Or, ça n'a pas fonctionné. Jean-Christophe Ploquin, on évoquait tout à l'heure avec Alain Frachon cette désuniversalisation des droits de l'homme. Alain Frachon nous expliquait que, aussi bien du côté russe que du côté chinois, on nous dit aujourd'hui que les droits de l'homme, finalement, ça n'est pas une norme universelle. Est-ce que vous constatez, vous aussi, dans votre observation du monde, cette désuniversalisation des droits de l'homme, Jean-Christophe Ploquin?
Alors, on constate effectivement, en Chine, le discours est depuis... plusieurs décennies maintenant très 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 virulent sur le fait de contester cette vision alors qui est présentée comme européocentrée finalement des droits de l'homme. Je pense qu'on peut dire aux Chinois que à Hong Kong aujourd'hui finalement les droits de l'homme ou à Tiananmen les gens qui manifestaient n'étaient pas des agents de l'Europe ou de l'Occident. Donc je pense qu'il y a...
Sauf que les Chinois l'ont toujours cru.
Les étudiants qui manifestaient demandaient la liberté et demandaient alors la démocratie sous des formes extrêmement diverses. Mais donc je pense qu'il faut évidemment entendre ces constructions idéologiques aussi qui viennent de Russie, qui viennent de Chine ou qui viennent d'ailleurs. Il faut les entendre, les comprendre, mais on peut aussi les contester. Je pense que l'aspiration à la démocratie et aux droits de l'homme, c'est quelque chose d'universel. Après, les formes de la démocratie sont extrêmement diverses et la démocratie ne se limite pas non plus aux élections. Là, il vient d'y avoir des élections aux Philippines, par exemple.
Vous avez signé récemment un édito à la une de la Croix là-dessus.
C'est ça. Et donc, le vainqueur dans les règles...
C'est le fils Marcos. C'est quand même une grande tristesse quand on voit l'histoire.
C'est d'une énorme tristesse puisque donc c'est le fils d'un dictateur qui a pillé son pays et qui a commis énormément de violations des droits de l'homme. Et donc, la démocratie ne se limite pas qu'à des élections qui permettent aussi à des autocrates de venir au pouvoir. C'est aussi tout un système de check and balance, de contre-pouvoir. La liberté de la presse est fondamentale dans ce système. Et donc, c'est aussi tout ça que Poutine, Xi Jinping et d'autres, et Ferdinand Marcos, cette liberté de la presse qu'ils remettent en cause. Et ce n'est pas derrière, ce n'est pas des valeurs universelles. C'est juste que lorsque une population veut se développer, c'est important d'avoir une presse libre et de pouvoir confronter les opinions. Donc la liberté d'opinion, la liberté de rassemblement qui sont refusées aujourd'hui en Chine et en Russie, ça n'a rien à voir avec l'Occident. C'est aussi, c'est la nature des choses quand on veut veut vivre librement dans un pays.
Merci pour ce plaidoyer, Jean-Christophe Ploquin. Nous allons aborder maintenant le dossier russe et on va revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. On va remonter à l'annexion de la Crimée. Nous allons remonter donc en mars 2014. On va écouter dans quelques instants comment est-ce que nos confrères d'Euronews ont évoqué l'annexion de la Crimée. Et puis après, je me tournerai vers Alain Frachon qui nous rappellera comment est-ce que les puissances occidentales ont réagi ou pas réagi à l'époque.
Le président russe a donc signé un accord sur le rattachement de la péninsule du sud de l'Ukraine à la Russie avec les nouveaux dirigeants pro-russes de Crimée. La signature de l'accord qui prend effet immédiatement a eu lieu après un discours de Vladimir Poutine dans lequel il a qualifié la Crimée de partie intégrante de la Russie. Le président russe qui a pris soin de s'adresser à la minorité tatare de Crimée. Les tatars de Crimée, a-t-il dit, sont revenus sur leur territoire. Il est nécessaire de prendre toutes les décisions législatives et politiques et clore le processus de réhabilitation de la population tatare de Crimée. Devant les deux chambres du Parlement et le gouvernement, Vladimir Poutine a prononcé un discours de 47 minutes aux accents patriotiques, avec des reproches et des remerciements aussi adressés selon aux puissances internationales. À propos de l'Ukraine, nos partenaires occidentaux ont franchi la ligne rouge, a-t-il dit. Ils se sont comportés d'une manière irresponsable, non professionnelle. Et de poursuivre... Nous sommes reconnaissants envers le peuple chinois dont le gouvernement a considéré la situation en Crimée et en Ukraine dans sa globalité historique et politique. Le président russe a fait beaucoup de références.
Voilà, c'était déjà en 2014 l'annexion de la Crimée, vous l'avez entendu. On parlait déjà de l'Ukraine, du franchissement de la ligne rouge. Vous avez écrit dans votre chronique du Monde, le 21 mars 2014, Alain Frachon, Obama et Merkel ont caressé l'ours dans le sens du poil sans rien obtenir en échange. Déjà.
Oui, il n'y a pas eu de réaction véritablement. Il y a eu des sanctions qui courent encore d'ailleurs. Il y a eu des sanctions prises par les États-Unis, par l'Union européenne, par un certain nombre de pays qui sont pas des sanctions d'ailleurs du système de l'ONU, sans imprimatur du système de l'ONU. Mais voilà, c'est passé assez rapidement. D'une certaine façon, c'était considéré au bout de 6 mois ou 1 an comme un fait acquis. Mais il faut revenir à l'explication.
Allez-y.
Pourquoi est-ce qu'il envahit la Crimée? Pourquoi est-ce qu'il attaque les Occidentaux? Pourquoi est-ce qu'il salue les Chinois dans son discours du Kremlin, là? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé un peu avant? Avant, il y a eu un président, démocratiquement élu, d'ailleurs, de l'Ukraine, et qui a choisi d'aller vers un partenariat économique que lui proposait l'Union européenne. L'Union européenne avait imaginé ce qu'ils appellent encore d'ailleurs le partenariat oriental, de proposer à des pays qui n'ont pas vocation à entrer dans l'Union d'y être associés plus étroitement sur le plan commercial, notamment sur le plan économique et commercial, au sein de ce partenariat. Ce président, dont le nom m'échappe, mais je pense qu'on va le retrouver, c'est Yanukovych. Ce président, voilà, Yanukovych, lui, hésite. Mais finalement, il dit oui, on va le faire. Et puis, Poutine l'appelle et lui dit, tu peux pas faire ça. C'est un mauvais coup, tu vas t'allier avec les Occidentaux.
C'est une trahison.
Tu peux pas, c'est une trahison. Mmh. Alors Yanukovych recule et il dit, on le fait plus. Et commence des manifestations sur la place Maïdan, dans la capitale ukrainienne. Commence des manifestations pour le partenariat avec l'Europe, qui était une manière de dire nous sommes un pays indépendant, nous sommes libres de passer un accord de coopération économique avec l'Union européenne, avec Bruxelles. Et Poutine dit non, vous n'êtes pas libre. Vous êtes dans l'ancienne sphère d'influence.
Et il le manifeste.
Vous n'êtes pas libre. Et à ce moment-là, il y a cette grande explosion de subversive, si vous voulez, de la place Maïdan, qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Bien sûr qu'il y a eu des manipulations, bien sûr que les Occidentaux étaient avec les manifestants, évidemment qu'il y a eu des coups fourrés, mais fondamentalement, ce choix qui a été fait ces semaines-là de la place Maïdan, ce choix d'un accord avec l'Union européenne, il a été corroboré librement, ça c'était pas de la manipulation, par 6 élections, au moins 6 élections qui ont suivi depuis. À chaque fois, élection législative ou élection présidentielle, les Ukrainiens, élections libres, ont choisi de renvoyer au gouvernement des gens qui étaient partisan de cet accord d'association commerciale ou économique.
Et c'est à ce moment-là
avec l'Union européenne
que Poutine a récupéré la Crimée.
Poutine l'a récupéré avant, il a commencé dès 2014 pour manifester son opposition à ça. Là, vous remarquerez que la question de l'OTAN ne se pose pas. C'est la question d'une association avec l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, elle porte aussi ses valeurs avec elle. Même si elle n'est pas très militante, elle porte quand même ces valeurs-là. Et ça, Poutine, ça veut dire pour lui, danger.
Ouais.
Danger.
Danger de fond.
Danger
de corrosion.
Et si jamais l'Ukraine réussissait, si cette terre de civilisation russe réussissait dans un modèle plus ou moins démocratique ou de liberté politique.
Ça serait le début d'un cancer, en quelque sorte.
Ça serait le début d'un cancer et d'un contre-exemple. Ouais.
Jean-Christophe Ploquin, vous partagez cette vision ?
Alors totalement. Je pense que Vladimir Poutine est vraiment dans un autre état d'esprit que celui des dirigeants européens. Les dirigeants européens, l'Union européenne, c'est un esprit de coopération et de recherche de compromis. Vladimir Poutine, est dans un système de pensée qui est d'une part quand même assez paranoïaque, c'est-à-dire finalement il y a des ennemis partout autour de la Russie et donc il faut s'en prémunir, principalement les États-Unis et l'Occident. Mais ensuite il est aussi dans une approche totalement non coopérative et en fait de la loi du plus fort. Donc c'est ce que je gagne, toi tu le perds. Mm-hmm. Et donc on est vraiment dans cet état d'esprit et comme Alain Frachon l'a souligné au moment de Maïdan, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que voir l'Ukraine, effectivement, voir le tropisme de l'Ukraine vers l'Union européenne, c'était pour lui une perte. Et de fait, c'était une perte d'influence pour la Russie. Mais il n'imaginait pas que, finalement, il pouvait peut-être une autre façon d'imaginer la relation entre la Russie et l'Ukraine aurait pu conduire à développer aussi des approches plus coopérative.
Alors, on peut aussi aller plus loin dans l'appréciation des propos de Vladimir Poutine. Alain Frachon, vous écriviez le 1er juin 2018 « À Moscou, le mensonge fait partie d'une réécriture des événements qui, de bonne ou de mauvaise foi, impute à l'Occident tous les malheurs du pays. » Le mensonge.
Oui, c'est devenu une sorte d'explication globale, de bouc émissaire formidable. Tous les malheurs du pays sont liés effectivement à l'Occident d'une manière ou d'une autre. Alors le portrait qui est fait de l'Occident par les médias russes, tous contrôlés à 100% quasiment ou presque par le gouvernement, est évidemment un portrait cauchemardesque. Hein, c'est un portrait cauchemardesque. Alors on peut dire que ça fait partie après tout de... Bon, c'est leur droit de nous regarder comme ça, de manière aussi uniforme et unanime. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, oui, je crois que Poutine, si vous voulez, il s'est construit sur une sorte de corpus idéologique qui comprend des éléments de réécriture de l'histoire destinés à présenter la Russie comme systématiquement victime, notamment victime des Occidentaux, et ça lui sert à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un instrument de propagande dans le monde arabe, dans le monde africain, etc., de cette diabolisation de l'Occident, mais ça lui sert à l'intérieur aussi, dans une sorte de mobilisation, sinon de militarisation de la société russe contre ce bouc émissaire qui est présenté comme étant uniquement obsédé par la destruction de la Russie. Ça lui sert à l'intérieur et à l'extérieur. Il a fondé son régime sur ce corpus idéologique.
Alors, on peut peut-être aller plus loin, Alain Frachon, et élargir le zoom concernant ce rôle de l'histoire, voire cette instrumentalisation de l'histoire aux yeux de certains dirigeants aujourd'hui. Vous écriviez fin mai 2017, je vous cite Alain Frachon, « Dans les relations entre États, entre les peuples, dans les défis géographiques de l'heure, l'histoire est aujourd'hui centrale. » Et vous citez plusieurs exemples. « Pékin ressort des cartes du XVIe siècle pour revendiquer une souveraineté absolue sur l'ensemble de la mer de Chine. La Russie, et vous l'avez dit, fait valoir que la Crimée est russe depuis 4 siècles. Le Turc Erdogan veut recréer une sphère d'influence ottomane. L'Iran reconstitue une manière d'empire perse. L'Inde de Modi rêve de l'Inde pré-islamique. Et l'État islamique, écrivez-vous à l'époque, efface la frontière irako-syrienne pour faire revivre le califat. » Voilà, ce retour de l'histoire, ce retour de bâton de l'histoire est essentiel pour comprendre le monde d'aujourd'hui.
Nous avons pensé, nous avons cru que les relations entre États étaient fondées sur la raison économique et que au fond, au nom de la raison et des intérêts économiques, eh bien, on allait atténuer tous les conflits, voire supprimer tous les conflits. Il y a eu comme ça une sorte de de présentation de la mondialisation économique et commerciale comme étant un facteur de paix. Parce
oui, une sorte de panacée universelle.
Panacée, tout le monde a quelque chose à perdre. Et tout. La Russie n'a rien à gagner à lancer la guerre qu'elle a lancée en Ukraine. Strictement rien. Les Chinois n'ont pas grand-chose, à mon avis, à gagner sur le plan économique en défendant le dossier des Russes dans cette affaire. Au contraire, ça va exacerber la situation conflictuelle qu'ils ont avec les États-Unis. Or, les Chinois ont beaucoup plus d'intérêt dans leurs relations avec les États-Unis qu'ils n'en ont dans leurs relations avec la Russie. De même qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt dans la relation qu'ils ont avec nous qu'ils n'en ont avec la Russie. Mais nous avons pensé que l'intérêt économique prédominait, et dans une démarche d'ailleurs très libérale, au sens où les libéraux du XVIIIe siècle ont pensé le libéralisme, nous avons cru que la raison économique aurait d'une certaine manière la peau de la guerre ou la peau des conflits. Et puis c'est pas vrai. La politique, c'est entre les nations, c'est comme entre les femmes et les hommes. C'est pas raisonnable.
C'est passionnel.
C'est passionnel. Et l'histoire remonte. Et je crois que je citais un livre d'un très bon politologue français, Bruno Tertrais, qui avait intitulé son livre Le retour de l'histoire, ou quelque chose comme ça. Mais je pense aussi à Pierre Asner, qui a fait un essai absolument éblouissant sur ce qu'il a appelé le retour des passions. Pierre Asner était un élève, malheureusement mort il y a quelques années, était un élève de Raymond Aron. Et lui avait admirablement présenté, théorisé, expliqué ce retour des passions dans la vie internationale. On pensait qu'on était vacciné depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la décolonisation.
Contre le tragique, contre les passions, contre la violence.
Eh bien non.
Eh bien non. Jean-Christophe Ploquin, vous partagez cette vision ?
Ah oui, mais alors est-ce que si on se projette un peu devant nous, alors il y a, y a une question justement, l'Ukraine continue finalement à poser la question de pour l'Union européenne, l'Ukraine dit je veux être membre de l'Union européenne et en plus je veux l'être tout de suite là maintenant, hein, c'est les propos de Zelensky, du président Zelensky. Et donc par rapport là pour le coup si on convoque l'histoire, on est dans une situation compliquée, c'est-à-dire une partie de l'Ukraine a longtemps fait partie finalement du royaume de Pologne, ou très proche de l'Autriche-Hongrie, mais l'autre vers l'est a tout le temps été plutôt vers effectivement les grandes steppes et les grandes plaines finalement russes. Et donc voilà ce poids de l'histoire, il va continuer à peser finalement dans cet enjeu qui se pose là maintenant et pour les 10 ans à venir. Comment est-ce que les Européens vont pouvoir nouer une relation forte, institutionnelle, politique, économique avec l'Ukraine, ou en tout cas l'Ukraine qui ne sera pas sous la mainmise de Moscou, la partie qui sera libre, et donc avec ce jeu des représentations qui va continuer à s'affronter entre la Russie et les Européens, et notamment les Polonais. Enfin, c'est vrai que là, ça vaut le coup de rappeler que les Polonais ont leur propre représentation de l'histoire de cette partie de l'Europe orientale, et qu'ils pèsent beaucoup. Ils se voient vraiment historiquement à travers les siècles, d'abord comme les victimes eux aussi de la Russie, pour le coup.
Ça a été un pays écartelé.
Et aussi finalement de l'opposition à la Russie.
Les Polonais et les Baltes.
C'est ça, exactement. Baltes, et donc là, il y a aussi un choc des histoires finalement qui se déroulent en Europe orientale.
Le choc des histoires. Alors on va maintenant tourner notre regard vers les États-Unis. Alain Frachon, dans l'une de vos chroniques, le 3 juillet 2015, vous avez évoqué avec une forme de tendresse, on va le voir peut-être, le fameux discours de Charleston prononcé par Barack Obama, où Barack Obama, on va l'entendre, a entonné un hymne très très ancien autour de la grâce. Alors on va écouter ça pendant quelques instants, ce qui va nous permettre ensuite de parler de l'évolution de la position américaine. On écoute Barack Obama.
Blinded by hatred, the alleged killer could not see the grace surrounding Reverend Pinckney and that Bible study group. The alleged killer could have never anticipated the way the families of the fallen would respond when they saw him in court in the midst of unspeakable grief with words of forgiveness. He couldn't imagine that. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was
Voilà, nous étions le 3 juillet 2015. Le président Obama se trouvait à Charleston. Il a rendu, vous l'avez entendu, un vibrant hommage à un pasteur noir, Clementa Pinckney, qui avait été abattu avec 8 paroissiens par Dylan Roof, un partisan de la suprématie blanche. Et vous l'avez entendu, le président Obama explique, aveuglé par la haine, le tueur présumé ne pouvait pas voir la grâce qui entourait le révérend Pinckney. Et donc, le président Obama a entonné ce fameux chant « Amazing Grace », connu de tous. Alain Frachon, pourquoi vous avez souhaité reprendre cet épisode, ça vous paraît significatif des bons côtés et peut-être des mauvais côtés de Barack Obama?
Je dirais essentiellement, oui. Même à 100%, des bons côtés de Barack Obama. Barack Obama n'est pas, au sens où nous l'entendons, un Afro-Américain. Ce n'est pas un Noir américain. Barack Obama est né à Hawaï d'un père haut fonctionnaire kényan, enfin qui est devenu haut fonctionnaire ou homme politique kényan, et d'une mère blanche qui était dans une anthropologue du Kansas, dans un milieu protestant extrêmement militant, hein, très progressiste, se battant pour beaucoup de causes économiques et sociales, etc. Et donc il est élevé en partie à Hawaï, et puis ensuite sa mère va en Indonésie pour faire de l'anthropologie, et il est élevé en partie en Indonésie. C'est véritablement un homme du Pacifique. Il aura une relation compliquée et passionnante avec les Noirs américains qui lui sont très fidèles lors de ces deux élections. Mais ce que veut dire Obama, là, il est face à le crime raciste absolu. Et il n'y a pas tellement de contexte économique et social qui tienne. Ça n'a pas de sens. Mmh. Ça n'explique pas ça. D'ailleurs, c'est relativement inexplicable. Et donc, il choisit un autre élément de discours. Il choisit quelque chose de nature à, non pas à nous élever, mais à essayer de donner un sens à ce drame. Et il dit, tout son discours est une réflexion sur c'est quoi la grâce. C'est quoi des moments de grâce dans la vie. Il dit, voilà, là, il y avait 8 personnes, amis du pasteur, mais 8 personnes qui travaillent dans la vie, ingénieurs, classe moyenne, ouvriers, etc. Et une fois par semaine, ils se retrouvaient ensemble dans le cadre dans cette église, et pour parler de la vie et pour essayer de donner un sens à leur vie. Et c'est ce moment-là qu'a choisi le tueur. Il est venu les tuer à ce moment-là, comme s'il voulait tuer la grâce, ce moment de grâce dans la vie de ces gens-là. Et j'ai trouvé que en matière de discours que peut prononcer un homme politique dans des situations aussi terrifiantes, eh bien Obama a trouvé ce qu'il fallait dire, et non seulement il l'a trouvé, mais en plus il l'a chanté.
Et il chante un peu faux du reste.
Il chante un peu faux. Voilà. Ce n'était pas prévu, et on voit tout de suite que l'organiste évidemment s'y met très bien, etc.
Dans la grande tradition des églises noires américaines.
C'est une scène qui vous donne la chair de poule, enfin qui est une très très belle scène.
Alors c'est ce fameux Obama que vous décrivez, Alain Frachon, je vous cite, comme un charmeur, un mélange de pasteur inspiré et de Fred Astaire qui serait passé par Harvard. Jolie formule. Cet Obama a quand même deux caractéristiques. C'est lui qui a entériné le retrait des États-Unis d'une certaine façon de l'échiquier international, et c'est aussi celui qui a accouché de Trump d'une certaine façon. Alain Frachon, vous qui avez été correspondant aux États-Unis.
Oui, je crois, oui. On peut dire ça. On peut dire ça pour des raisons compliquées, qui là encore montre que la politique, ce n'est pas une affaire de raison. Mais si vous voulez, Obama était beau, maigre, sportif, intelligent. Tout lui réussissait, sa famille. Et il y a un élément de revanche sociale aussi qui compte dans la politique. Il y a un élément de revanche sociale. Il y en a marre de voir ce gars-là avec ses costumes cintrés impeccables qui, quand il passe par hasard auprès d'un terrain de basket, même s'il n'est pas en campagne, on lui lance le ballon et il rentre le panier de basket.
Là,
c'est odieux.
Vous parlez de qui, là? Vous parlez de Barack Obama ou d'Emmanuel Macron?
Alors... Et donc, je pense qu'il y a un élément qui joue comme ça, de jalousie. Alors, de revanche sociale, d'exaspération, qui a compté dans l'élection de Trump.
De Trump,
bien sûr.
Sur le plan international, quel a été le rôle de Barack Obama?
Barack Obama, il a essayé, de même que Donald Trump, de sortir les États-Unis du marasme moyen-oriental. Les États-Unis, depuis bien avant même 2003, bien avant la guerre d'agression contre l'Irak, bien avant 2003, les États-Unis se sont plombés au Moyen-Orient. Et Obama, lui, c'est à partir d'Obama que ça commence, cette volonté de sortir de cette région.
Le grand retrait.
Le grand retrait. Ouais. Et il se dit non, l'essentiel, modèle de ce qui se passe aujourd'hui. Le 21e siècle se jouera en Asie. Il va pas se jouer au Moyen-Orient. D'ailleurs, nous, les États-Unis, nous sommes autonomes sur le plan des hydrocarbures. On est devenu le premier exportateur de gaz naturel liquéfié, par exemple. Mmh. Et donc, on n'est pas dépendant de cette région. Nos alliés le sont, et nous entendons quand même assurer la protection de nos alliés. Mais il est temps de pivoter vers l'Asie-Pacifique. Et il a appelé ça le pivot, d'ailleurs. Il a appelé ça le pivot. Ce qu'après, il y a une continuité ensuite avec Trump. Je dirais qu'avec Biden, c'est plus compliqué. Mais il y a eu aussi des éléments de cette complicité. Il fallait sortir les États-Unis d'une malédiction moyen-orientale qui les a plombés militairement, je dirais pas économiquement, mais qui les a plombés militairement dans ce qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient. Ça comprend le Grand Moyen-Orient, l'Afghanistan aussi, oui. Qui se solde par une sorte de défaite.
Par un retrait.
Ces guerres-là qui sont ni gagnées, ni vraiment perdues, on sait pas ce qu'on a fait là-bas. Il fallait en sortir. On n'a pas réussi. Elles se soldent par quelque chose qui, au regard de l'histoire et de la plupart des opinions publiques, est un échec de l'Occident. Et donc, il faut en sortir. Ça, en ce sens, c'est vrai, il a été le président qui va amorcer ce retrait, ou mal.
Jean-Christophe Ploquin.
Oui, c'est vrai que ça a été reproché finalement à Barack Obama sur la Syrie, le fait qu'après une attaque chimique du régime Assad, donc
la fameuse ligne rouge.
Obama avait dit que c'était une ligne rouge qui riposterait dans ce cas-là, donc il a finalement il s'est un peu défaussé sur le Congrès et il a décidé de ne pas le faire. Mais et donc effectivement quelques années après, qui est arrivé à la place des États-Unis, c'était la Russie, et c'est la Russie de Poutine, et c'est la Russie de Poutine avec les méthodes de Poutine
qui a occupé le terrain en
Syrie. Et donc mais effectivement je pense qu'il y a eu des critiques envers Barack Obama de cette décision. Mais finalement, la question, peut-être que, effectivement, vu des États-Unis, c'est une question que je poserai à Alain Frachon.
Allez-y.
Effectivement, c'est vu des États-Unis, on comprend bien le pivot pour l'Asie, mais finalement, la responsabilité, est-ce que c'est pas celle des Européens qui, là aussi, par rapport au Moyen-Orient, finalement, laisser un peu les États-Unis dans un rôle de grand parrain, de honest broker, d'intermédiaire un petit peu, notamment entre Palestiniens et Israéliens. Et finalement, le retrait des États-Unis de cette région, l'arrivée de la Russie n'a absolument pas été anticipée par les Européens, alors que, pour le coup, le Moyen-Orient est à leur porte. Et donc là, il y a peut-être une responsabilité à prendre pour les Européens dans cette région.
Alain Frachon.
Coup sur coup, depuis les guerres des Balkans jusqu'à tous ces événements du Moyen-Orient que vous évoquez, printemps arabe, les différentes guerres civiles ou par procuration qui se sont livrées pendant une dizaine d'années au sein de la Syrie, qui ont fait pas loin de 200 000 morts, sans compter les millions de réfugiés.
Il faut le rappeler. Ouais.
Tous ces événements, l'Europe les a vécus sans exercer un véritable leadership. C'est à chaque fois les États-Unis qui ont donné la note. Pour les Balkans, c'est eux qui ont décidé, c'est Clinton qui décide. Chirac l'a poussé. Chirac, le premier, a réagi. Mais c'est quand même les États-Unis, et c'est l'aviation américaine qui va dégommer les batteries d'artillerie qui, depuis 3 ans, font le siège de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Tous ces événements ont manifesté de manière éclatante l'absence de personnalité politique, stratégique et militaire de l'Europe, du projet européen. Et c'est très intéressant, parce que le projet européen se constitue justement en exemple de relations entre États qui ne se font pas la guerre, qui ont chassé la guerre de leur horizon. C'est fini, la guerre c'est fini, c'est dépassé. Ce qui compte, c'est les relations économiques, éventuellement culturelles, mais fondamentalement ce qui compte. C'était ça le projet européen, c'est toujours ça le
Erasmus
projet européen.
Plutôt que les armes, quoi.
Erasmus plutôt que les armes, exactement.
Sauf que maintenant, c'est en train de changer.
Sauf que c'est en train de changer sous la pression des événements. Parce que nous avions chassé la possibilité de la guerre de notre horizon. Eh bien, nous avons eu tort pendant les Balkans et nous avons eu tort pendant l'Ukraine. La guerre est à nouveau fait partie de notre horizon.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, nous sommes avec le journaliste du Monde, Alain Frachon, autour de son livre « Un autre monde, l'ère des dictateurs », publié chez Perrin, un recueil de ses chroniques publiées dans le quotidien Le Monde. Et puis également, nous sommes avec Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Donc, nous passons en revue l'évolution des relations internationales dans le monde depuis 30 ans. Nous avons parlé de la Chine, nous avons parlé de la Russie, nous avons parlé des États-Unis. Je voudrais revenir avec vous, Alain Frachon, sur une citation que vous avez faite en novembre 2015 d'un éditeur du New York Times, signé Roger Cohen, qui nous expliquait le point suivant, je cite « Les sociétés occidentales sont dans une quête permanente et déstabilisante de nouvelles libertés, affranchissant les citoyens des liens de la religion, de la tradition, libérant le mariage, le divorce, le sexe et même le choix de mourir. Peut-être y a-t-il dans la séduction de l'islam radical une volonté inconsciente de se libérer du fardeau de la liberté ?» Et on se souvient que le patriarche Kirill de Moscou, récemment, mettait en cause ce qu'il appelle la gay pride en Occident. Est-ce que cette évolution des libertés en Occident ne vient pas effrayer une partie du monde et ne vient pas la renforcer, disons, dans cette aspiration plus ou moins exprimée à une forme d'autocratie du moment que on peut vivre dans une société de consommation? Alain Frachon.
Ah, c'est une question difficile qu'on va pas trancher même tous les trois ce matin.
Explorons.
Mais écoutez, il y a un moment où, à partir d'un grand mouvement de libération important qui commence dans les années 1960, qui vient des États-Unis, qui touche la France, qui touche toute l'Europe ensuite. Mais il y a un moment où le progressisme politique ne va plus se définir que par une sorte d'exacerbation du moi ou du désir individuel. Et de la constitution de micro-sociétés à partir de là. Et donc, je trouve que Roger Cohen raconte ça très bien, et aujourd'hui le patron du bureau parisien du New York Times. Et c'est pour ça que j'ai cité ça, parce que je crois qu'il y a un moment où on ne peut plus définir le mieux politique par une sorte d'augmentation constante et infinie des libertés ou de la libération du moi. Parce qu'il n'y a plus de collectif à ce moment-là. Il n'y a plus de collectif. Et donc, il y a une manière de désintégration. Maintenant,
Vous l'observez, Alain Frachon.
Si vous voulez, je dirais deux choses là-dessus très rapidement. Je crois que ceux qui ne nous aiment pas, des autocrates, Poutine très exactement, dans tous ses discours, si tu veux, se servent de ça comme une caricature, une sorte de généralisation parfaitement abusive. Ouais. Il n'empêche, il pointe quelque chose qui existe et qui est peut-être exagéré chez nous. Peut-être, je dis peut-être exagéré, ou trop mis en avant par rapport à l'évolution générale des pathologies qui devraient être prioritaires dans nos sociétés. Donc peut-être, on leur sert une partie du gâteau, mais ça reste une caricature. Mais c'est vrai que ça existe, mais c'est une caricature. Je ne crois pas que nos sociétés soient en voie de désintégration.
Jean-Christophe Ploquin.
Il y a une anecdote, une fois qu'un correspondant à Moscou m'a raconté, donc je ne sais pas si c'est un récit, mais c'est donc un de ses amis ou le père d'une de ses amies qui vient en vacances en France et qui, marchant dans la rue au bout d'un jour ou deux jours, dit mais où ils sont tous les homosexuels? Voilà, parce qu'il était venu avec une vision de la France où effectivement ce seraient des couples gays à tous les coins de rue. Et donc voilà, c'était un peu le choc du réel. Donc effectivement, il y a une construction qui est faite dans le discours, et effectivement ça se retrouve aussi chez Erdogan, et ça se retrouve évidemment dans le monde musulman, en Afrique aussi beaucoup,
en Chine aussi.
Oui, donc effectivement là il y a une ligne de clivage, et mais effectivement à l'intérieur de nos sociétés européenne et occidentale, on voit bien qu'il y a aussi finalement des réserves par rapport à ce mouvement qu'a décrit Alain Frachon. Et là, il y a pour le coup, si on revient aux États-Unis, il y a ce moment très particulier qu'on vit avec l'enjeu de l'avortement et donc cet avis de la Cour suprême qui est en préparation. Peut-être que vous avez des informations là-dessus, mais voilà, qui remettrait en cause finalement le grand arrêt de la Cour suprême qui organisait finalement l'avortement et l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis depuis 1973. Donc voilà, les États-Unis aussi sont presque clivés sur ces enjeux-là.
Alors, je voudrais revenir sur ce fameux retour de bâton de l'histoire, du tragique dans l'histoire. Dès septembre 2016, Alain Frachon, dans votre chronique du Monde, reprise par votre livre « Un autre monde, l'ère des dictateurs » chez Perrin, vous nous proposez cette citation du grand écrivain Stefan Zweig. Et Stefan Zweig a écrit les mots que je vais citer, c'était au tout début du XXe siècle. « Maintenant que l'orage l'a depuis longtemps fracassé, nous savons de science certaine que ce monde de sécurité n'était qu'un château de nuées. Pourtant, mes parents l'ont habité comme une maison de pierre. » Avons-nous cru habiter, Alain Frachon, une maison de pierre, alors qu'en fait c'était un château de nuées ?
Oui, et je vais me permettre de parler de mes parents, justement, pour paraphraser Zweig. Mes parents émergent, mon père fait la guerre avec l'armée d'Afrique, et mes parents émergent de la guerre de 1945, sont pris dans ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas pu aller à l'université, mais ils sont pris dans les Trente Glorieuses, dans le développement économique de la France, ils sont pris dans la paix qu'apporte la protection nucléaire américaine, qui permet le développement du projet européen avec des priorités économiques et sociales fortes.
Et culturelles.
Mmh. Et ils ont chassé la guerre de leur univers.
Ils ont chassé le tragique.
Leurs parents avaient fait la guerre de 14. Mes grands-parents ont fait la guerre de 14.
Leurs arrière-grands-parents avaient fait la guerre de 70.
Voilà. À table, à la maison, on parlait encore d'un horizon guerrier, de la perspective de la guerre à cause d'un oncle mort à la guerre d'Indochine. Et puis de savoir si les frères de ma mère allaient être mobilisés pour la guerre d'Algérie. Mais après, ça a été fini.
Voilà.
Après les années 60, le tragique a disparu.
Oui.
Et la leçon de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de leçon de l'histoire, nous ne les retenons pas.
Parce que nous sommes anesthésiés, facilement.
Et on retombe dans les nuées, des nuages, des fantasmes et des illusions.
Jean-Christophe Ploquin, vous n'êtes pas tout à fait la même génération qu'Alain Frachon. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
En tout cas, c'est vrai. Alors là, je parlerai même pas de mes parents, mais parce que eux, effectivement, eux ont connu la Deuxième Guerre mondiale enfant. Et ma mère était brestoise, donc elle a connu la ville de Brest dévastée par les bombardements. Mais en tout cas, moi, effectivement, je suis né en 62. Et donc la guerre d'Algérie venait de s'arrêter. Enfin voilà, j'ai grandi.
Vous n'avez connu que la paix.
Voilà, exactement.
Vous êtes la seule génération en Europe depuis 1000 ans qui n'a connu que la paix.
Exactement. Et donc voilà, mais je pense que ce retour du tragique, effectivement, il est présent, mais le désir de paix, il est toujours présent aussi. Et donc comment est-ce qu'on va réussir à on revient sur cette Europe, comment est-ce qu'elle va aujourd'hui pouvoir intégrer dans son ADN le fait qu'elle doit effectivement pour préparer la guerre, se préparer à la guerre, pour justement peut-être protéger la paix, mais voilà, intégrer deux nouveaux éléments de souveraineté, finalement, pour se protéger par rapport au péril.
Peut-être un dernier point d'attention, parce que nous arrivons malheureusement au terme de cette conversation, Alain Frachon. En avril 2016, vous écriviez donc dans votre chronique du Monde, reprise, je le rappelle, dans votre livre « Un autre monde, l'ère des dictateurs » chez Perrin, vous écriviez « Le monde est moins démocratique qu'il ne l'était il y a 10 ou 20 ans ». C'était déjà en 2016. « Dans les démocraties elles-mêmes, la marée reflue aussi. Certains pays deviennent moins libres. Élections libres, séparation des pouvoirs, indépendance de la presse et de la justice, liberté publique, tout ce qui compose ainsi la mécanique compliquée d'une démocratie libérale, tout cela est à la baisse. » Et un peu plus tard, vous rappeler, comme on le rappelle régulièrement dans La Croix, que les votes extrêmes, les votes qui remettent en question l'état de droit, la démocratie représentative, sont en croissance continue dans un certain nombre de démocraties occidentales. Quel est votre point d'attention aujourd'hui, Alain Frachon ? À quoi faut-il veiller ?
Je crois qu'il faut crever un fantasme, démolir une illusion. L'autocratie n'est pas efficace. Elle n'est pas plus efficace que la démocratie pour régler des questions économiques, sociales et sanitaires. C'est pas vrai. On le voit en ce moment même en Chine. L'autocratie n'est pas plus efficace. Ce qui a été efficace dans la gestion de la pandémie, au moins pour ce qui concerne le continent européen, ce sont les vaccins. Et les vaccins, ils sont nés en Occident. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que c'est nous qui avons accouché de ces vaccins aussi vite et le fait qu'il y a la liberté d'expression et de création. Je ne sais pas. Mmh. Quel est l'environnement politico-juridique qui favorise la création scientifique, qui nous a permis de régler plus ou moins, et plutôt mieux que partout ailleurs, la question de la pandémie. Mieux même qu'aux États-Unis, mais c'est pour des raisons différentes aux États-Unis. Donc il faut crever ce mythe de l'efficacité des autocraties. C'est pas vrai. Simplement, il y a quelque chose que requiert la démocratie, cette machinerie compliquée qu'on décrivait tout à l'heure de pouvoir et contre-pouvoir, voilà. Cet ensemble de libertés qui doivent marcher ensemble,
long, c'est lent,
c'est contradictoire, ouais. Etc. Mais la démocratie, elle suppose quelque chose dont nous sommes de plus en plus dépourvus, la patience. Il y a une qualité démocratique, c'est la patience. Or, nous sommes des, comment dire, nous vivons dans l'hystérie politique. Nous vivons de manière hystérique, alors que la démocratie requiert un peu de patience.
Jean-Christophe Ploquin, vous qui êtes rédacteur en chef à La Croix, quel serait votre dernier point d'attention ?
Bah que je nous souhaite effectivement beaucoup de patience. Mmh. Effectivement, pour revenir par exemple sur cet exemple des Philippines, hein, qui est lointain, à l'autre bout du monde, le Ferdinand Marcos a été réélu notamment parce que depuis 2-3 ans, il menait une campagne sur les réseaux sociaux de reconstruction de la réalité, mmh. d'effacement de la réalité.
Et sans véritable programme, sans
du régime de son père, voilà, c'est ça. Mmh. Et donc se présenter comme un homme neuf, alors que c'est un fils d'un dictateur, que c'est l'exemple de ces grandes familles qui règnent sur l'archipel. Donc, effectivement, l'univers médiatique qui est aujourd'hui marqué par l'immédiateté et doit être sans doute rééquilibré, peut-être régulé. Il faut trouver un moyen de réintroduire du temps long, finalement, dans la politique.
Il faut réintroduire du temps long, il faut réintroduire de la démocratie, il faut réintroduire de la patience. Vaste programme. Un tout dernier point, Alain Frachon, on a beaucoup parlé de la Chine. Peut-on envisager que Taïwan soit la prochaine Ukraine, Alain Frachon ?
Taïwan pose le même problème, c'est-à-dire, voilà, des Chinois, 20 millions de Chinois qui, après avoir vécu une dictature, celle de Chiang Kai-shek, mais voilà, 20 millions de Chinois qui sont passés à la démocratie, une vraie démocratie. C'est-à-dire compliquée, ouais. Contradictoire, folle dingue par moments, ouais. Excessive, etc., mais une vraie démocratie, et qui réussit sur le plan économique et social, et qui a conservé le sens du collectif aussi, et des priorités sanitaires et sociales. Et voilà, c'est un exemple de réussite. Mais Hong Kong posait aussi le même problème.
Oui.
Posait le même
pourtant,
problème à Xi Jinping.
Et pourtant,
ça lui
Hong Kong
était
est passé
intolérable.
De l'autre côté.
Voilà. Alors, s'il y a une leçon de l'Ukraine quand même, que peut-être retirer Xi Jinping, qu'il retire certainement, c'est que la guerre, c'est pas facile, et que c'est pas gagné en avance, et que c'est pas le plus gros au moins sur le papier, qui gagne forcément sur le terrain.
Donc cet exemple pourrait retenir la main de,
c'est pas impossible.
De la Chine. Jean-Christophe Ploquin, vous partagez ce point de vue ?
Eh bien, faut vraiment l'espérer, effectivement, parce que si jamais Xi Jinping tentait une aventure sur Taïwan, ce serait sans doute, les répercussions seraient décuplées par rapport à ce qui se
décuplées.
Passe.
Décuplées. Bah, oui.
Enfin, pour donner un ordre de grandeur, parce que là, on a vraiment les deux grandes superpuissances mondiales qui seraient en face à face, et sinon en affrontement direct.
Voilà, ce sera notre dernière note d'espoir. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Et merci à Alain Frachon, éditorialiste au Monde, qui publie aux éditions Perrin un recueil de ses chroniques internationales intitulé « Un autre monde, l'ère des dictateurs ». Merci à vous deux d'avoir éclairé nos lanternes
merci,
sur
Frédéric.
L'histoire des relations internationales. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette édition des Racines du Présent, ainsi que les références des livres de notre invité sur les sites de RCF, aussi sur votre plateforme de balado-diffusion, de podcast, sur votre plateforme favorite. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine.